Merci d'écouter RFI. Il est 9h à Washington et à Port-au-Prince, 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi avec à la une le revirement de Donald Trump qui a défait hier ce qu'il annonçait la veille. Les droits de douane sont suspendus pour 90 jours et aux États-Unis, la presse s'interroge. Tout ça pour ça. On verra ça dans quelques minutes. Nous irons également au Chili où un port essaye de s'adapter au réchauffement climatique, aux effets du dérèglement. Et cela implique de très nombreuses interruptions du commerce à San Antonio. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Lou Suran, vous nous parlerez du cancer.
Oui, en Martinique, on compte près de 1600 nouveaux cas de cancer par an pour un peu plus de 700 décès selon l'Agence régionale de santé. On parlera donc dépistage du cancer tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et tout de suite le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Et les bourses repartent de l'avant.
Oui, les bourses mondiales ont repris le chemin de la hausse aujourd'hui, rassurées par la volte-face de Donald Trump sur les surtaxes douanières. Depuis ce matin, toutes les places européennes gagnent au moins 5%. La débâcle d'hier s'est transformée en euphorie. Le président américain ayant annoncé, vous le disiez, pour tous les pays, une suspension pendant 3 mois des taxes à l'importation, à l'exception très notable de la Chine. Dans le sillage de Donald Trump, l'Union européenne a à son tour mis en pause ces contre-mesures douanières. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benassé.
La Commission européenne a décidé de prendre la pause décrétée par Donald Trump comme un signe de bonne volonté. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, appuie donc elle aussi sur le bouton pause pour 90 jours. Elle suspend donc les droits de douane de rétorsion sur 180 produits américains qui avaient été adoptés ce mercredi par les États membres de l'UE et qui devaient entrer en vigueur le 15 avril. Étant donné que les 27 ont donné à une écrasante majorité leur feu vert pour cette réplique, elle va suivre son cours et le décret d'application sera adopté de manière à pouvoir être déclenché tout de même, si besoin. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz avait d'ailleurs été jusqu'à estimer que la volte-face du président américain était une réaction à la détermination affichée par les Européens. Cette réplique européenne ne concernait que la riposte aux droits américains sur l'acier et l'aluminium, qui reste en place, de même que les droits sur l'automobile. Mais la suspension américaine, qui ne concerne que les fameux droits dits réciproques, est tout de même vue par la Commission comme une possibilité de relancer des négociations sur l'ensemble de l'offensive commerciale de Donald Trump. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et puis également dans l'actualité autour de la guerre commerciale, cette question, Donald Trump a-t-il commis un délit d'initié ? Plusieurs élus démocrates à Washington émettent des soupçons en encourageant à acheter des actions juste avant son revirement sur les droits de douane. Eh bien, le président a peut-être illégalement manipulé les marchés. L'OMC a 30 ans et en guise de cadeau d'anniversaire, l'Organisation mondiale du commerce se voit offrir par le président américain une guerre commerciale impuissante. L'OMC regarde Donald Trump défaire toutes les règles qu'elle a contribué à mettre en place pour réguler les échanges mondiaux. Correspondance à Genève de Jérémy Lanche.
C'est comme pendant le Covid, tout le monde s'en fichait de l'OMS. Donc là, tout le monde s'en fiche un peu de l'OMC. C'est ce qui s'appelle un constat sans appel. Cédric Dupont est professeur de relations internationales au Graduate Institute de Genève. Son bureau est à 500 mètres à vol d'oiseau de l'OMC. Elle devrait être au cœur du bras de fer sur les droits de douane américains.
Vous écoutez les ministres différents, ils sont tous en train d'essayer de négocier avec Washington, enfin, voir ce qu'ils peuvent faire à Bruxelles ou ce qu'ils peuvent faire à Pékin. Mais l'OMC, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens dans les couloirs.
D'après l'OMC, l'offensive de Trump va faire baisser de 1% le volume des marchandises échangées dans le monde en 2025, en contradiction totale avec les engagements pris par les États-Unis à l'OMC.
Ce qu'ils font est déjà illégal. S'ils ont un problème avec des États, ils doivent en parler au sein de l'OMC. Ils le font pas. Pour eux, l'OMC n'existe pas.
Et Washington bloque par ailleurs le renouvellement des juges de l'organe d'appel de l'OMC, chargé de traiter les différends entre États. L'OMC paralysée, ignorée, court-circuitée, mais pas complètement morte pour autant.
85% du commerce ne passe pas par les États-Unis. Donc le reste du monde pourrait se dire, OK, ça on va le régler peut-être en dehors, mais on va garder l'OMC pour stabiliser les 85% du commerce.
Donald Trump n'a pas manifesté son envie de quitter l'OMC, mais l'hypothèse est jugée crédible par des diplomates qui se gardent bien de dire ce qu'il adviendra alors de l'organisation. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Également dans l'actualité, un nouveau bilan à Saint-Domingue. Au moins 218 morts. Le bilan de la catastrophe qui continue de s'alourdir. Les secouristes ont pratiquement perdu tout espoir maintenant de retrouver des survivants dans les décombres d'une discothèque dont le toit s'est effondré pendant un concert.
Le Panama s'oppose au retour de troupes américaines sur son sol.
Oui, cet État d'Amérique centrale a la position stratégique, l'a fait savoir par la voix de son ministre de la Défense. Il a démenti par la même occasion une annonce faite un peu plus tôt par les États-Unis. Pierre Olivier.
Lors de sa visite au Panama, le secrétaire d'État à la Défense en avait pourtant la certitude.
We welcome the opportunity to have an increased troop presence here.
Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée d'accroître la présence des troupes aux côtés des Panaméens afin de garantir la souveraineté du canal de Panama, avait annoncé Pete Hegseth, affirmant par la même occasion que les États-Unis aideraient le Panama à reprendre le canal de l'influence de la Chine. Mais voilà, il s'agit d'une option militaire que ne peut accepter le Panama, selon son ministre de la Défense, qui réfute également toute idée d'influence chinoise autour de cette voie d'eau par laquelle transite 40% du trafic de conteneurs des États-Unis. Finalement, le scénario d'un retour des troupes américaines au Panama a été très vite douché. Les éloges de Pete Hegseth faits au président panaméen pendant sa visite n'auront, semble-t-il, pas suffi. Et les tensions, un temps apaisées entre Washington et l'État d'Amérique centrale, pourraient apparaître de nouveau. Lors de sa campagne, Donald Trump avait menacé de reprendre le canal sans exclure un recours à la force.
Pierre-Olivier, les États-Unis et la Russie viennent de boucler des discussions bilatérales à Istanbul, en Turquie. Ils ont dans le même temps procédé à un deuxième échange de prisonniers depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Autre signe de réchauffement entre Washington et Moscou. En France, à un mois de l'ouverture sur la croisette, les dirigeants du Festival de Cannes ont dévoilé la sélection officielle. En vedette cette année, le cinéaste iranien Jafar Panahi, l'américain Wes Anderson et la française Julia Ducournau en lice pour une deuxième Palme d'Or. Quant au Belges et des frères Dardenne, ils briguent une troisième Palme d'Or. La 78e édition se déroulera du 13 au 24 mai.
Et on va finir en parlant de danse contemporaine.
Oui, On Marche, c'est le nom du festival qui se tient cette semaine à Marrakech, au Maroc, avec parmi les pièces présentées, Kaniki, qui veut dire enfant en créole et qui nous vient de La Réunion. L'artiste Florence Boyer exhume un drame révélé il y a une dizaine d'années autour de la déportation d'enfants réunionnais dans les années 1960 en France. Reportage à Marrakech de Muriel Mahalouf.
C'était entre 1960 et 1984. Près de 2000 enfants réunionnais ont été déplacés dans la Creuse pour y travailler comme domestiques ou dans des fermes. Florence Boyer, chorégraphe et danseuse, a grandi dans l'île de la Réunion.
Lorsqu'on était enfant, nos parents nous disaient « Attention, n'allez pas sur la route parce que la voiture rouge de l'assistante sociale va venir vous enlever et vous emmener dans la Creuse ». Et c'est en 2010 à l'Université de La Réunion que j'assiste à une conférence et on découvre que cette histoire est réelle.
Pour réaliser sa pièce, Florence Boyer est allée à la rencontre des personnes déplacées, devenues adultes aujourd'hui.
Il était important pour moi de montrer comment ces enfants qui sont aujourd'hui devenus adultes ont résisté malgré tout à cette violence, à cette déshumanisation et leur donner à vivre ce qu'ils n'ont pas pu vivre à cette époque-là. Donc la joie, l'insouciance, la légèreté. Et donc puiser dans ces forces de réexistence que sont le maloya, le crump, le hip-hop, pour pouvoir se réinventer un demain.
Kaniki, une pièce touchante et débordante d'énergie, réunit sur scène Florence Boyer et Loïc Perny dans une danse contemporaine inspirée du maloya, la danse des esclavagisés de l'île de la Réunion. Muriel Mahalouf, Marrakech, RFI.
Voilà, et maintenant la suite et la fin d'RFI Midi. C'est avec vous, Anne Contenaire.
Merci Gilles Moreau. Nous sommes sur le continent américain. Aux États-Unis d'abord, après le renoncement de Donald Trump à ses droits de douane. Une suspension du moins, pour 3 mois.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Retour à 10% pour tout le monde, sauf pour la Chine qui subit toujours des taxes considérables et qui maintient le bras de fer. C'est suffisant pour que les marchés financiers soufflent un peu, on le disait dans le journal. La presse des États-Unis consacre une large place à ce sujet. Vous avez lu les principaux journaux, Achim Lippold, et une phrase résume le sentiment des commentateurs. Tout ça pour ça.
Oui, exactement. Selon le Washington Post, cette pause tarifaire reflète la puissance des marchés et le besoin pour Donald Trump de conserver surtout ses alliés. Le journal compare le président américain au roi Canu qui, selon la légende, avait installé son trône sur la plage pour ordonner à la marée de s'arrêter. Une semaine après l'annonce de ses nombreux droits de douane, Donald Trump s'est comporté comme le roi Canu, écrit le journal, et aujourd'hui, les jambes trempées, l'eau continue à monter. eh bien, il attrape une bouée de sauvetage. Pour le Washington Post, pas de doute, ce sont les marchés obligataires qui ont forcé le président à faire marche arrière en retirant leurs capitaux du dollar et en vendant massivement des bons du Trésor américain. Les investisseurs ont envoyé à Donald Trump un message que ses plus proches conseillers n'osaient peut-être pas lui dire « on ne peut pas lancer une guerre commerciale contre tout le monde en même temps ».
Alors justement, ce problème de communication interne, il est aussi pointé du doigt par une ancienne conseillère de Donald Trump, Alyssa Farah Griffin.
J'ai le sentiment que beaucoup des décisions majeures de ces derniers jours ont été prises dans un cercle très restreint et que bon nombre des membres de l'équipe de communication, ceux qui vont à la télévision pour expliquer ce qui se passe, sont souvent en décalage par rapport aux décisions du président. On nous a répété à plusieurs reprises que les droits de douane n'étaient pas une affaire de négociation, alors que Donald Trump, lui, dit que c'en est une. Au-delà de ça, je crois que la Maison-Blanche écoute ce que disent les dirigeants étrangers. Mais plus encore, elle écoute les chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui, pour beaucoup, avaient misé gros sur Donald Trump. Et ils pensaient qu'il serait bon pour l'économie, qu'on allait voir un second mandat semblable au premier. Et puis, ils ont vu les marchés s'effondrer. Donc, je pense que Donald Trump n'a pas vraiment eu le choix. Et franchement, tant mieux. On entend un grand soupir de soulagement au Congrès et chez nos alliés partout dans le monde en ce moment.
Alyssa Farah Griffin, ancienne conseillère de Donald Trump, elle s'exprimait sur la chaîne CNN. Certains médias conservateurs, Achim, ne sont pas tendres non plus à l'égard du président américain et sur son attitude erratique à propos des droits de douane.
Oui, par exemple, le National Review s'interroge aujourd'hui pourquoi cette pause tarifaire alors que Donald Trump ne cesse de marteler que le déficit commercial représente une urgence nationale. Une suspension des droits de douane, selon cette logique, n'a aucun sens. Le déficit ne changera pas en 90 jours, pas plus que l'état de l'industrie ou les principes économiques. Et ce n'est pas certainement cette administration incapable, toujours selon le National Review, de se mettre d'accord sur sa propre politique qui va restructurer le commerce mondial en 3 mois, le temps de cette suspension. Alors, que faire? Eh bien, le National Review propose quelques solutions, on va dire un peu radicales. Limoger le conseiller au commerce Peter Navarro, interdire au secrétaire au commerce Howard Lutnick d'apparaître à la télévision pendant quelques mois et surtout faire en sorte que le Congrès reprenne le pouvoir tarifaire qui lui revient selon ce petit document trop souvent ignoré, écrit The National Review, la Constitution.
Et dans ce contexte, Arim, tous les coups sont permis ou presque. Le Canada, par exemple, a décidé de sensibiliser les Américains sur les conséquences des droits de douane par un moyen très original.
Oui, c'est à la une du journal La Presse qui reprend un article de New York Times. Depuis plusieurs semaines, des panneaux d'affichage financés par le gouvernement canadien sont apparus à Pittsburgh et dans d'autres villes américaines. Et sur ces panneaux électroniques, on peut lire des messages comme « Les droits de douane sont une taxe sur l'épicerie » ou encore « Les droits de douane sont une taxe sur l'essence ». En utilisant des slogans simples et percutants, eh bien Ottawa cherche à alerter l'opinion publique américaine sur les conséquences concrètes de la politique commerciale de Donald Trump. Et comme on dirait dans le hockey, écrit La Presse, vous savez, ce sport populaire au Canada, mais aussi justement à Pittsburgh, le Canada entre dans ce match les coudes levés.
Avant peut-être de jeter les gants, merci Arim Leopold. Votre revue de presse à retrouver sur Internet. Cette semaine, ce sont les droits de douane qui rythment l'actualité mondiale. Il y a 3 semaines, Donald Trump avait choqué en faisant expulser plus de 200 personnes vers le Salvador, toutes présentées comme appartenant à des gangs vénézuéliens, ce qui a été démenti pour certains depuis. Et hier, les familles de ces détenus ont manifesté devant le siège des Nations Unies à Caracas pour interpeller les organisations internationales. Notre correspondante Alice Campagnol était sur place.
Ce sont d'honnêtes gens, des jeunes, sains et travailleurs qui sont partis pour aider leur famille.
Analia est la tante du jeune Victor, détenu au Salvador depuis plusieurs semaines. Et c'est par hasard qu'elle a découvert la situation de son neveu.
On ne nous a absolument rien dit. Nous l'avons su via des vidéos sur les réseaux sociaux.
Comme Analia, aucune des familles présentes n'a été notifiée officiellement du transfert de leurs proches au Salvador. Et les détenus eux-mêmes n'étaient pas au courant, comme l'explique Carla, la mère de John.
Ils l'ont attrapé car il n'avait pas de papier en règle. Au Texas, il m'a appelé et m'a dit « il nous renvoie au Venezuela ». Et je lui ai répondu « ok, parfait, je t'attends ici ».
La soixantaine de personnes présentes le répètent, ce sont de jeunes innocents qui ont été envoyés au Salvador. Carla.
Il est arrivé aux États-Unis et il a travaillé comme livreur à vélo, puis à moto. Bref, ça a toujours été un bon fils. Il faut qu'ils étudient au cas par cas pour voir qui a un casier judiciaire et qu'ils fassent quelque chose contre les délinquants, bien sûr. Mais les autres, les innocents, c'est terrible d'être plongé dans cet enfer.
Les familles sont soutenues par le gouvernement au Venezuela, qui, pour le moment, ne parvient pas à se faire entendre ni par le Salvador ni par les États-Unis. Le même gouvernement vénézuélien qui détient plus de 900 prisonniers politiques. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité en Haïti, nous sommes en ligne avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour Anne.
Vous affichez en une de votre site « Coup dur pour la PNH, la police haïtienne qui a perdu 3 agents ».
Effectivement, 3 agents de police ont été tués dans des affrontements d'une part à Miombalet et aussi dans un guet-apens quasiment à Port-au-Prince où deux inspecteurs divisionnaux de la PNH ont été tués alors qu'ils tentaient de sauver quelqu'un qui était en train d'être kidnappé. Ils ont perdu la vie sur la route de l'aéroport de Port-au-Prince en faisant leur travail. Et avant, c'est un agent d'une unité tactique de la PNH qui a été tué dans les affrontements à Miombalet. 3 décès d'un coup pour la PNH cette semaine.
Et dans ce contexte sécuritaire catastrophique, une députée d'origine haïtienne aux États-Unis travaille à l'élaboration d'une loi sur la collusion criminelle, c'est-à-dire sur les liens entre les gangs et les cartels de drogue.
Tout à fait. C'est le président colombien Gustavo Petro qui avait été le premier à dénoncer ce qui se passe en Haïti comme étant la répercussion des actions des cartels de drogue de la Colombie qui ont des liens avec les groupes criminels en Haïti. Le président colombien l'avait dit. Et là, maintenant, ça passe à un autre niveau. C'est une proposition de loi bipartisane, c'est-à-dire supportée par des démocrates et par des républicains. On va essayer de faire passer au Congrès américain. C'est une initiative qui pourrait changer la donne, mais ça va prendre du temps car c'est un projet de loi.
Franz, votre journal revient aussi sur le combat mené depuis des années déjà pour sauver la mangrove de la Gonâve.
Tout à fait. Depuis 2018, une étudiante en agronomie, aujourd'hui responsable d'une organisation, se bat pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé de la mangrove de l'île de la Gonâve, qui est une île au large de la baie de Port-au-Prince, et un peu délaissée, un peu appauvrie, où il n'y a pas de travail et où les gens coupent tout ce qu'ils trouvent pour faire du charbon, particulièrement la mangrove qui est disponible, qui est au bord de la mer. Et malheureusement, en détruisant cette ressource naturelle, ils détruisent l'habitat des poissons, ils fragilisent les côtes, ils provoquent de l'érosion. Alors elle se bat, elle sensibilise, elle essaie d'impliquer la mairie, d'impliquer les autorités, mais c'est une petite initiative au niveau local que cette institution essaie de garder vivant et taper l'ag, c'est comme ça que cela s'appelle, et c'est une très bonne initiative sur l'île de la Gonâve.
Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, on vous retrouve sur cette antenne la semaine prochaine, jeudi, et d'ici là, on peut vous lire sur le site lenouvelliste.com. Dans le contexte sécuritaire que nous évoquions avec vous, Médecins Sans Frontières annonce qu'elle se désengage de 2 centres de santé, on en parlait ici hier. Les centres de Turgeau et de Carrefour sont fermés pour 3 mois parce qu'un convoi de MSF a été directement ciblé par des tirs. Alors, ça n'est pas la première fois que l'ONG suspend ses activités en Haïti, mais là, un palier a été franchi, selon le chef de mission, Benoît Vasseur.
Là, il y a un des acteurs sécuritaires qui nous a ciblés. Donc, manifestement, nos interventions et le fait que l'on soigne en Haïti toutes les populations, en particulier les populations les plus défavorisées, manifestement, ça dérange certains acteurs et les tirs dont on a été victime nous l'ont fait savoir. On était à un moment donné dans un contexte de grande criminalité organisée. Maintenant, on est dans un contexte quasiment insurrectionnel. Ce qui était accepté à une époque ne l'est pas forcément aujourd'hui. On se pose la question de savoir comment on devrait réorienter nos programmes de manière à regagner cette acceptation de part et d'autre de la population et des acteurs sécuritaires, mais peut-être également travailler plus en province où la situation nous permettrait un accès aux bénéficiaires plus aisés.
Le chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti, Benoît Vasseur.
RFI, la radio del mundo.
Dernier jour de campagne électorale en Équateur avant la présidentielle de dimanche. Le second tour opposera le sortant Daniel Noboa, au pouvoir depuis un an et demi, à la candidate de gauche Luisa González, qui porte l'héritage de l'ancien dirigeant coréen. Le futur président n'aura pas la tâche facile dans un pays en proie aux gangs, aux trafiquants de drogue et touché par une crise économique. Et à en croire les sondages, le scrutin sera très serré. Confirmation avec ses électeurs rencontrés à Guayaquil par notre envoyé spécial, Raphaël Morand.
Je suis pour le président. La manière dont il agit me paraît bien, surtout contre la délinquance, les gangs, tout ça. C'est ce que j'aime le plus chez lui. C'est le premier président à sortir les forces armées, les policiers pour combattre.
Idilia, avez-vous décidé pour qui voter dimanche ? Vous aussi pour Luisa González ?
Parce que Noboa ne nous donne qu'un espoir.
L'insécurité. Disons qu'il y a des morts tout le temps, rien n'a changé. On n'est jamais en sécurité et on peut se prendre une balle à tout moment.
Écoutez, l'insécurité, c'est chaque jour pire. Le président n'est pas assez ferme. Si vous saviez combien de fois ils ont volé mon fils sur le chemin de l'université. Et l'économie empire aussi. Regardez dans la rue, tous les gens qui essaient de vendre un peu tout, des vêtements. Parce que pouvoir manger est une angoisse. On n'a jamais été dans une telle situation.
Voilà, propos recueillis par notre envoyé spécial à Guayaquil. Journée de grève générale en Argentine pour dénoncer la politique d'austérité du président et les privatisations. La compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas, par exemple, que Javier Milei envisage de vendre, annule plus de 250 vols aujourd'hui. Et à la veille de ce jeudi de débrayage, des milliers de personnes ont manifesté hier à Buenos Aires. Des syndicats, des mouvements de gauche, ils ont marché sans incident, contrairement au 12 mars dernier, où des affrontements avec des policiers avaient fait 45 blessés lors d'une marche de retraités. 13h22 en temps universel. L'heure est aux grands travaux dans le port de San Antonio, au Chili, et ça fait plusieurs années que ça dure. Il faut dire que le site est particulièrement soumis aux effets du dérèglement climatique, notamment aux vagues de plus en plus importantes. Alors, l'entreprise qui exploite le port a décidé de le rénover, même si aujourd'hui, cette adaptation signifie la suspension récurrente des activités. Reportage, Marion Bellal.
Il est 13h et sur le port de San Antonio, tous les regards sont tournés vers un bloc de béton suspendu à une grue. Celui-ci pèse environ 27 tonnes et il doit être posé au millimètre près sur le brise-lame du port principal en pleine rénovation.
Cette pièce que l'on est en train de poser sur le mur, que l'on rénove, a cette forme très particulière de crochet parce qu'ainsi, quand la vague se brise, ça la renvoie vers la mer.
Mario Cortés est responsable adjoint des constructions pour le port de San Antonio et il supervise ce qui est, il l'assure, le chantier le plus important actuellement. Les tempêtes, de plus en plus fréquentes et violentes en raison du dérèglement climatique, stoppent régulièrement l'activité du plus gros port du Chili. En 2023, il n'a ainsi fonctionné que 87% du temps.
Là, nous pouvons vraiment bien observer les dégâts sur ce bloc, là où ont été reçus les impacts de la houle pendant tout ce temps. On voit comment a été mangé le béton, comment il a été abîmé. C'est pour ça qu'on a jugé indispensable d'améliorer le brise-lame pour que le port puisse fonctionner ainsi correctement pendant au moins 20 ou 25 ans.
Le but, selon Mario Cortés, est de faire en sorte que le port soit ensuite opérationnel 95% du temps. Le nouveau mur de protection mesurera plus de 11 mètres de hauteur sur 800 mètres de longueur. José Aldunate, responsable des constructions, revient sur les différents paramètres qui ont dû être pris en considération afin de garantir l'efficacité du brise-lame.
Ce sont des prises de mesure, des études de la houle, des analyses des effets du dérèglement climatique, notamment des variations du niveau de la mer et de tout ce qui peut être impliqué. On a aussi pris en considération tous les impératifs qui naîtront de la création du port extérieur. On a pensé au présent, mais aussi et surtout à ce que ce brise-lame va devoir protéger dans le futur.
En effet, cette rénovation a également été pensée dans la perspective de l'agrandissement du port de San Antonio. Un projet gargantuesque qui devrait s'étaler sur 12 ans et qui est pour l'instant en attente d'un permis environnemental. L'agrandissement prévoit la construction de deux nouveaux terminaux en pleine mer, de chacun 1730 mètres de long et 400 450 mètres de large. La Fondation Cosmos, qui administre le sanctuaire naturel de la zone humide du fleuve Maipo, situé à proximité du port, présente des réserves face à ce projet. Son directeur, Diego Urrerola, les détaille.
Le premier risque est en lien avec la fragmentation de l'habitat d'espèces qui circulent entre la lagune de Yoeo et l'embouchure de l'estuaire du fleuve Maipo. En deuxième plan, il y a un potentiel impact engendré par le passage de trains de chargement jusqu'au nouveau projet. Et enfin, ce qui est le plus significatif selon nous, c'est la construction d'un nouveau brise-lames qui va partir de la côte et se projeter sur 1,5 km dans la mer et qui se situera juste au niveau de l'embouchure du fleuve Maipo. Cela va donc modifier l'embouchure et on estime que cela transformera aussi le reste de la zone humide. Ce que nous ne savons pas à ce jour, c'est quel sera précisément l'impact, car les études réalisées pour ce projet jusqu'à aujourd'hui sont des modélisations faites à partir de données insuffisantes pour pouvoir, de notre point de vue, comprendre quelle sera la portée de cette construction.
La fondation réclame ainsi de nouvelles études. Son directeur le certifie, le but n'est pas de bloquer l'entreprise portuaire, indispensable aux dynamiques économiques de la région et du pays, mais de pouvoir penser le projet d'agrandissement du port en ayant le maximum d'informations possibles. S'adapter au dérèglement climatique et se développer en limitant l'impact sur la biodiversité, deux enjeux finalement très liés. Marion Bellal, Santiago, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Lou Suran, avec cette question. Comment inciter au dépistage du cancer en Martinique ?
C'est la question qui était au cœur d'un séminaire organisé hier par la CGSS, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2024, c'est l'assurance maladie qui transmet les invitations pour les dépistages des cancers aux personnes éligibles. Les retours sont plutôt timides, c'est le constat que dresse Laurie Marignan, responsable de la prévention santé publique à la CGSS Martinique. Elle est au micro de Florin au sud de Martinique. La première.
Quand vous envoyez une invitation pour un assuré, déjà il faut qu'il puisse recevoir. Il y a de ceux qui n'ont pas reçu parce que les adresses ne sont pas à jour, nos fichiers ne sont pas à jour. Ça veut dire aussi des fois problème d'adressage au niveau même de la boîte aux lettres. Ensuite, cette personne qui finalement a reçu peut être aussi en point de difficulté pour se déplacer, pour aller faire le soin. Donc les transports, mais aussi l'offre de soins sur le territoire où on se situe. Est-ce que le professionnel de santé qui va permettre l'acte de dépistage est tout prêt? Et ce que la personne vit au quotidien qui va peut-être venir pour lui. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller tous ensemble avec l'action sociale pour aider au maximum la population et faciliter l'acte de dépistage parce qu'ils ne vont pas y arriver seuls et on a besoin d'eux.
C'est la valse des ministres aux Antilles. Valérie Létard, ministre chargée du logement, était en visite depuis deux jours en Guadeloupe. Elle est maintenant en Martinique et c'est Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre chargée de l'autonomie et du handicap, qui est en Guadeloupe après un passage en Martinique. En Martinique, justement, où on fait le point sur les abribus. Dans le secteur de la CACEM, la communauté d'agglomération du centre de Martinique, un certain nombre manquent à l'appel et quand il y en a, ils sont souvent en mauvais état, alors que le bus est le transport en commun privilégié sur l'île. Reportage de Bianca Careto de Martinique, la première.
Il arrive que l'attente soit par moment
très longue, tout simplement.
Surtout sans abri sous la tête.
Donc sous le soleil, sous la pluie, on a tout.
Et quand il y en a,
ils ne sont pas adaptés.
Des abribus arrachés, détériorés ou pas toujours adaptés. Pour Manuela Amable-Potiron, présidente des usagers des transports de la Martinique, il est temps que les élus consultent les usagers avant de lancer des chantiers.
Tout est à refaire encore. Donc c'est pourquoi nous demandons effectivement que les sociétés rentrent en contact avec nous.
Le mobilier est en cours de renouvellement depuis l'an passé. 18 ont été posés. Cette année, déjà 14 répartis dans les communes du centre. Un renouvellement qui a mis du temps. Christophe Dipp, chef du service infrastructure à la CACEM.
Il y a eu la nécessité de clarifier la position juridique du mobilier. Alors ça a pris un peu de temps effectivement, mais aujourd'hui le problème a été pris à bras le corps.
La CACEM souhaite remplacer une centaine d'abribus sur le territoire cette année, mais pour remettre tout le réseau à neuf, il faudra encore patienter quelques années.
Et c'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Lou Suran et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Vincent Biteau. On se retrouve demain à 11h, temps universel. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour De Vive Voix, invité aujourd'hui, le professeur en langue française Gilles Siouffi. Très bonne journée à tous.
RFI Midi. Un jour au village. Penaï Traoré.
Des éleveurs pasteurs de la Mongolie étaient dans la région de Louga pour rencontrer leur père Peul du Sénégal. Un échange sud-sud dans l'élevage pastoral. Font-ils face aux mêmes défis? Quel impact ce type de coopération peut-il avoir sur la vie des communautés?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.